Piazza Campo dei Fiori è un place de Rome situé entre Piazza Navone e Palazzo Farnese e entre Via Giubbonari e la Piazza della Cancelleria. O confan de Rione, Parione e Regola. Son nom viendrait du fait qu'il existait une prairie dominée par les forteresses de la puissante famille Orsini. Au centre de ces lieux se trouve la statue de Giordano Bruno, qui a été brûlée vif en 1600 et accusée d'être hérétique parce qu'il avait dit que l'univers est infini et que la planète, que la Terre tourne autour du Soleil. Et grâce au pape Sixte IV, ce lieu était devenu un centre d'affaires. Piazza Campo dei Fiori était le lieu où étaient exécutés les condamnés à mort devant le peuple pour lui rappeler que s'opposer au pouvoir et au gouvernement portait la mort. Aujourd'hui, tous les jours, sauf le dimanche, se tient un marché des fruits et des légumes. Et il y a aussi des restaurants et des magasins qui sont parfaits pour les touristes. Enfin, beaucoup d'églises se trouvent à proximité de Campo dei Fiori.
Palais Farnèse. Au XVIe siècle, le cardinal Alexandre Farnèse demande qu'il soit construit Palazzo Farnèse, mais le sacre de Rome interrompit les travaux. Le projet a été continué par Michel-Ange, qui a réalisé les balcons qui se trouvent sur la façade principale. Le palais occupe beaucoup d'étoiles et la bibliothèque de l'école archéologique française de Rome. Le palais est situé dans une place ornée par des fontaines qui réutilisent le granit provenant des thermes de Caracalla. Il est divisé en trois étages qui comprennent 39 fenêtres décorées. À l'intérieur, on trouve aussi trois nefs séparées par des colonnes d'ordre dorique. Le peintre Annibal Carracci et son frère, Augustin, devaient les décorer à l'intérieur initialement avec des représentations sur les exploits de la famille Farnèse. À la fin, les peintures murales ont été décorées par les amours des dieux. La scène la plus intéressante est sans aucun doute le triomphe de Bacchus et Ariane. L'épisode dépeint les deux personnages sur des charrettes tractées par des tigres et des béliers. Dans la salle d'Hercule était conservée la statue d'Hercule, qui maintenant est située au Musée archéologique national de Naples. Palais Farnèse est aujourd'hui un bâtiment historique de Rome. En 1936, il a été donné au gouvernement français, qui possède ici son ambassade en Italie.
La place de Venise est un des nœuds de circulation du centre de la capitale, qui sert de semi-rond-point. Elle est un vaste espace qui prit la forme actuelle à la fin du 19e siècle. L'une des places plus célèbres de Rome est située au pied du Capitole, d'où partent trois grandes avenues. La Via dei Fori Imperiali, la Via del Corso, l'axe Via Battisti Via Nazionale, l'axe Via del Plebiscito Corso Vittorio e Via del Teatro di Marcello. La place, vue de l'entrée du Vittoriano, est entourée du Palais des Assurances Générales, à droite. En plus, vous pouvez voir le Palazzo Venezia, Palais de Venise, sur votre gauche. Le bâtiment a donné son nom à la place. Il a été construit entre 1455 et 1464 par le cardinal Pietro Barbo, qui est devenu le pape Pule II. Le palais est l'un des plus anciens édifices civils de la Renaissance à Rome. Il a été utilisé comme résidence papale jusqu'à ce que le pape Pie IV remette le bâtiment à Venise, qu'il a utilisé comme son ambassade. En 1916, le Palazzo Venezia a été acquis par le gouvernement italien. Benito Mussolini a utilisé le bâtiment comme siège et s'adressait au peuple depuis les balcons du palais. Le bâtiment abrite aujourd'hui les Museo del Palazzo Venezia, un musée avec une collection d'art décoratif historique qui comprend de tapisseries, des tableaux du début de la Renaissance, de céramique, des armures et des sculptures. Directement en face du Palazzo Venezia se trouve le Palazzo Generale, construit entre 1906 et 1911 et qui est virtuellement une copie du Palazzo Venezia. Le bâtiment a remplacé deux palais qui ont été démolis en 1900 pour agrandir la place. À droite du Palazzo Venezia se trouve un autre palais, le Palazzo Bonaparte. Il a été nommé d'après Letizia Bonaparte, la mère de l'empereur Napoléon Ier. Après la chute de l'empire de Napoléon Bonaparte, le pape Pie VII accorda l'asile à sa mère. Elle a résidé dans ses palais du XVIIe siècle jusqu'à sa mort en 1836. La place est dominée aussi par l'imposante masse blanche du Vittoriano.
Le monument à Vittorio Emanuele II, aussi connu sous le nom de Vittoriano, est un monument de Rome qui se trouve sur la place de Venise, à côté du Capitole. Au centre du monument se dresse l'Hôtel de la Patrie, tandis qu'à l'intérieur du bâtiment abrite le musée sur la réunification de l'Italie. Lorsque meurt Vittorio Emanuele II, en 1878, les communes de Rome lançaient aussitôt l'idée d'ingénier un monument au père de la patrie. Un concours international est organisé pour solliciter des projets. Les architectes des sculptures sont libres de proposer ce qu'ils veulent, mais la proposition retenue pour les Vittoriano fut celle d'un jeune architecte de 30 ans, Giuseppe Sacconi, originaire de Marche. Sacconi ne peut mener l'œuvre à son terme. En 1905, il meurt d'épuisement. En 1911, l'Hôtel de la Patrie, dénomination que le monument avait pris en cours de la route, était inauguré. Le chantier ne fut terminé qu'en 1921. Un an plus tard, Mussolini prenait le pouvoir. Aux yeux des fascistes vainqueurs du régime parlementaire, les Vittoriano étaient le symbole d'une Italie petit bourgeois appelée à disparaître. Le duce envisage la destruction du monument, mais à la fin, plutôt que le détruire, il a récupéré comme élément de scénographie pour les grandes manifestations du régime. C'est ainsi au pied du Vittoriano che sarà proclamé l'Empire italien après la conquête d'Éthiopie. La structure mesure 140 mètres de large et 70 mètres d'eau. Le monument, ainsi que son grand escalier, est tout entier de marbre blanc. C'est une perfusion de colonnes de la fontaine au trône des statues équestres de Victor Emmanuel II. Ces sculptures évoquent l'Italie dans l'art, la science, la religion et les droits. Au-dessus du bâtiment, de chaque côté, est représentant l'unité et la liberté, deux statues inspirées des représentations d'Athéna, conduisent un quadrillage. Au-dessus brûle la flamme éternelle, sur la tombe du soldat inconnu. La fontaine à gauche symbole la mer Adriatique et celle de droite la mer Tyrrhénienne. La réalisation du Vittoriano provoqua beaucoup de protestations. Pour les unes, c'était leur atelier. Pour les autres, la machine écrit. Ou encore, les gâteaux de mariage. Ses adversaires trouvaient le bâtiment trop colossal et très mal assorti avec le centre historique de Rome. Cependant, aujourd'hui, la plupart des Italiens considèrent les monuments qui continuent à attirer de nombreux visiteurs comme un symbole de leur ville.
Le Panthéon est situé sur la Piazza della Rotonda, dans le quartier qui prend le même nom. Le Panthéon était un temple dédié à toutes les divinités de la religion antique. Il fut converti en église au 7e siècle. Le nom du Panthéon vient de l'adjectif grec Pantheion, qui signifie de tous les dieux. La construction du Panthéon fut menée en deux temps. Le Panthéon original fut construit en 27 avant Jésus-Christ, au début du règne d'Auguste, par Agrippa, un collaborateur qui participait à la politique d'abellissement de la ville. Le Panthéon d'Agrippa fut détruit par un incendie en 110 après Jésus-Christ, sous Traiano. Il fut entièrement reconstruit sous le règne de l'empereur Adriano. Le plan du nouvel édifice est exceptionnel, sans précédent dans l'architecture romaine. En 863, l'empereur byzantin Constantino II, à court de finances, fit récupérer les tuiles de bronze doré qui couvrent la coupole du Panthéon. Aussi, les marbres extérieurs ont été volés, mais les marbres intérieurs et les grands portails en bronze ont survécu. L'utilisation a changé beaucoup pendant les siècles. En effet, comme on avait dit, fut un temple, puis un église, était aussi l'objet de combats d'influence entre la papauté et la ville de Rome. Avec la formation du Royaume d'Italie, la maison de Savoie obtint du pape de se faire attribuer l'église pour que les rois y soient inhumés. Depuis la Renaissance, les panthéons étaient utilisés comme tombeaux. Il se trouve Raffaello, le compositeur Arcangelo Corelli, le cœur du cardinale Ercole Consalvi, des rois d'Italie Vittorio Emanuele II et Umberto I, Saipus, la reine Margherita di Savoia et d'autres encore.
Est sûrement la fontaine la plus connue parmi les fontaines de Rome et constitue l'exposition de la Vierge, c'est-à-dire l'aqueduc que Marco Agrippa avait conduit à Rome le 19 avant Jésus-Christ pour alimenter ses thermes. Dans celle qui sera Piazza di Trevi, il avait fait positionner l'une des fontaines mineures de l'aqueduc, constituée de trois bacs de récupération. Pendant le 7e siècle, l'aqueduc a subi une interruption et la fontaine mineure est devenue la fontaine terminale de l'aqueduc Vierge. Les trois bacs sont restés comme ça jusqu'en 1453, quand Nicolas V a décidé d'en charger Jean-Baptiste Alberti de restaurer la source. Cette fois, on avait remplacé les trois bacs avec un seul et grand bac, toujours en gardant les trois grandes bouches de l'eau. Les trois jets d'eau, celui central, était constitué d'un vase ayant trois petites lionnes qui jetaient l'eau dans les baignoires sous-jacentes. En 1562, c'était à Pie IV de résoudre un autre problème, celui relié à l'eau. Et en fait, en cette occasion, l'aqueduc a été relié à la source originaire, c'est-à-dire la fontaine de Nicolas V, entièrement restaurée par Giacomo della Porta. La fontaine a commencé à prendre sa forme d'aujourd'hui avec Pape Urban VIII, qui avait décidé de la remplacer avec une fontaine encore plus grande. Et pour ce devoir-ci, il avait en charge Bernini. Ceci avait présenté plein de projets, tous très chers, à cause desquels le pape a dû augmenter les taxes sur les bancs. Malheureusement, Urban VIII et Bernini sont morts avant que la fontaine puisse être ultimée, et donc à cette époque-là, il n'y avait qu'un grand baignoire et rien d'autre. Plus d'un siècle plus tard, même pape Clément XII a voulu remplacer la fontaine par une autre monumentale. Et avec ses bouts, il avait invité les meilleurs artistes de l'époque à lui présenter le projet. Parmi les croquis envoyés, on avait choisi celui de Nicolas Salvi, d'inspiration à Bernini. Les travaux étaient commencés en 1735 et s'étaient terminés en 1762 avec l'inauguration de la fontaine par Pape Clément XIII. La fontaine a une largeur de 20 mètres et une longueur de 26 mètres. La voûte est constituée d'une grande niche centrale, flanqué d'un orte de quatre colonnes corinthiennes qui soutiennent un très grand attique surmonté de l'emblème de Clément XII et couronné d'une balustrade avec quatre statues qui symbolisent les quatre saisons. Au-dedans de la niche se dresse la statue d'Océan, au-dessous d'un char traîné de deux chevaux marins qui symbolisent les deux aspects de la mer. L'entière coupe statuaire est composée par Pietro Bracci. Au côté de la niche, il y en a deux autres plus petites, dans lesquels il y a deux statues qui raffigurent l'abondance à gauche et la salubrité à droite, surmontées de deux bas-reliefs qui représentent la légende d'Agrippa, qui approuve les projets de l'aqueduc et les vierges romaines qui indiquent aux soldats assoiffés les sources d'eau. Parmi les plus célèbres légendes qui se racontent sur la fontaine de Trevi, la plus connue est sûrement celle selon laquelle celui qui jette une pièce à la fontaine avec les deux tournées retournera à Rome. Mais il y a aussi la légende de la découpe, en grande vase avec une ressemblance à la carte des jeux, selon laquelle le même Salvi l'avait fait situer à ce point-là afin qu'un barbier qui le dérangeait toujours ne pouvait plus regarder les travaux.
Via dei condotti, antiquement s'appelle Via Trinitatis parce que menait à Trinità dei Monti. Cette rue a été ouverte dans la première moitié du 500, le pontificat de Paul III Farnese. Elle est longue 300 mètres et elle est située au nord du centre historique de Rome, dans la dite quartier du Tridente qui couvre les rues autour de Piazza di Spagna, Via dei Condotti e Piazza del Popolo et elle connecte Via del Corso et Piazza di Spagna. Au début de la rue, sur la droite, on rencontre l'église du Tres Saint-Trinité des Espagnols, bâtie au XVIIe siècle par l'architecte portugais de Santos. En outre, il y a l'antico caffè greco, un numéro de la maison 86, qui a été fondé en 1760 par le grec Nicolas de la Maddalena. Dans ce café, il y a une petite salle nommée Omnibus, dans laquelle se réunissent les plus hautes personnalités des cultures, de littérature et d'art, dont Goldoni, D'Annunzio, Trilussa, Goethe, Schopenhauer et Casanova. Sur la route, il y a aussi le Palais Magistral de Malte, qui est une architecture baroque détenue de l'ordre souverain et militaire de Malte, qui a obtenu l'extraterritorialité de la part du gouvernement italien. Il y a aussi le Palais des Ancellini et le Palais Megalotti. Selon une légende, le mot condotti vient du latin ducti, c'est-à-dire guider, conduit, par référence aux soldats d'Agrippa qui, assoiffés, ont été conduits par une jeune fille à la source de Vierge. En vous promenant, vous verrez aussi beaucoup de boutiques de luxe et haute couture, comme Dior, Louis Vuitton, Ferragamo, qui sont très fréquentées par les touristes du monde entier. Via dei Condotti, avec Via Borgognona et Via Frattina, sono le tre rue della moda a Rome, che converge vers Via del Corso a partir de Piazza di Spagna.
La place s'apporte sotto un excellent exemple de stratification architecturale, un phénomène produit en raison des alternances continuelles des pontifices qui comportaient des modifications et des remaniements des travaux de construction. La basilique de Santa Maria del Popolo fut érigée au XIe siècle et ensuite reconstruite par Pontelli et Brigno, qui lui donne un aspect plus renaissance. En 1660, le pape Alexandre VII chargea Gian Lorenzo Bernini qui restaure à nouveau l'église, en lui donnant cette fois une empreinte baroque évidente que l'on peut admirer encore aujourd'hui. En 1573, le pape Grégoire XIII place au centre de la place une fontaine de Giacomo della Porta, mais après le pape fera élever un grand obélisque flamand au centre de la place. Les deux églises jumelles sont construites par volonté d'Alexandre VII en renouvelant profondément l'aspect de la place et en constituant les deux pôles des tridents. Les deux édifices conféraient à la place un aspect baroque. La forme de la place ne prend sa forme actuelle qu'à la fin du XIXe siècle. C'était auparavant une petite place de forme trapézoïdale qui s'élargissait vers le Trident. Avec la première invasion par Napoléon, les Français imposent à Valadier un projet qui ne peut être réalisé, mais grâce à l'intervention de Valadier, la place prit sa forme elliptique actuelle, décorée de nombreuses fontaines et statues. En 1818, toujours Valadier enleva l'ancienne fontaine de Giacomo della Porta et la dernière intervention structurelle importante a eu lieu à l'époque fasciste en 1936. Aujourd'hui, Piazza del Popolo est un grand zone piéton d'environ 16 000 m², lieu de monument public important. Sa capacité lui permet d'accueillir jusqu'à 65 000 personnes.
«
L'église Saint-Louis des Français est un lieu de culte catholique qui donne sur la place des mêmes noms dans le quartier Sant'Eustachio. C'est l'église nationale des Français de Rome depuis 1189. L'église fut consacrée le 8 octobre de la même année, par conséquent restructurée par Carlitos Tetaz l'année suivante. En 1749, les intérieurs furent rénovés sous le projet de l'architecte français Antoine de Lizette. Ces travaux se poursuivirent jusqu'en 1764. Dès le début, elle fut construite comme une paroisse pour les résidents français de la ville et fut ensuite consacrée au roi Saint-Louis IX. L'église, du point de vue artistique, est une exaltation de la France à travers de la représentation de ses saintes et de ses plus grands personnages historiques. Dans la façade sont représentées les statues de Charlemagne, Saint-Louis, Saint-Clotilde, Saint-Jeanne de Valois. À l'intérieur, il y a des fresques avec l'apothéose de Saint-Louis et Saint-Dionysie et les récits de la vie de Clodoveo.
Dans la deuxième chapelle de la nef de droite, il y a la fresque avec des histoires de Sainte Cecilia del Dominichino et sur l'autel une copie de Guido Reni de la Sainte Échec de Raphaël. Tandis que dans la cinquième chapelle de la nef de gauche, il y a trois chefs d'ouvert absolus du Caravage. Le martyr de Saint Matthieu, Saint Matthieu et l'ange et vocation de Saint Matthieu. Peinte sur deux plans parallèles entre 1599 et 1600. L'étage le plus haut vide est occupé seulement par la fenêtre, tandis que l'étage inférieur représente le monument où le Christ appelle Saint Matthieu à l'apostolat. Saint Matthieu est assis à une table avec un groupe de personnes comme dans une scène de l'auberge. C'est la première grande toile dans laquelle le Caravage représente la scène dans une pénombre traversée par des rayons de lumière blanche, qui la sent entrevoir des visages, des mains ou des parts des vêtements et rend presque invisible tout le reste.
La toile est riche de significations allégoriques. La lumière est symbole de la grâce divine et en fait elle provient des épaules du Christ. Considérons qu'Henri IV venait de se convertir au catholicisme et choisissant les saluts. Ainsi, seul quelqu'un des personnages exposés à la lumière regardait vers Jésus, tandis que les autres préférant rester à la tête baissée. L'œuvre prend vie grâce au mouvement de la lumière et aux gestes des personnages, lui donne un mouvement unique. Dans l'autre toile, le martyre du sang, dans laquelle surgit d'une colonne sur la gauche, le visage de Caravage lui-même est affiné. Le dialogue entre l'écrit Pierre et Matthieu est très intense dans la vocation. Le geste du Christ est répété par Pierre, symbole de l'Église catholique romaine, qui relie les mondes divines et les mondes humains. Grâce à l'étude de l'ouvrage, nous savons que dans la première version, il n'avait pas senti Pierre qui fut ajouté après. C'est l'une des premières peintures sacrées exposées en public où apparaissent des actions réalisées.
Le Mont Palatin est une des sept collines de Rome. Il occupe une position centrale dans la Rome antique et il est une des parties plus anciennes de Rome. Il donné sur le forum romain au nord et sur le circus maximus au sud. La mythologie raconte que la caverne où vécu Luperca, la louve qui allaitait Romolo et Remo, se trouvait sur le mont Palatin. Selon la légende, quand les deux frères en grande, ils sont décidés de fonder une ville sur les rives de la rivière Mè. Et ne parvenant pas à un accord, Romolo a tué Remo et a créé Rome. Sur la colline du Palatin, les anciens avaient placé la légendaire fondation de Rome et la Sillon Carré, tracée par les losanges le 21 avril de l'an 754 avant Christ. Il s'agit certainement d'un village principal che il a donné vie à Rome, comme à un véritable organisme urbain. Auguste, en 44 avant Christ, décide d'aller vivre sur le Palatin, comme tous les empereurs successifs. Le premier palais impérial fu construite par le successeur d'Auguste, Tibère, et agrandi par Caligula, qui l'étendit jusque à donner sur le forum romano. Claudio et Nerone, entre 41 et 64 après Christ, ils ont érigé la Domus dite transitoire, qui ensuite brûlé dans le grand incendie de l'année 64, sans être plus reconstruit.
Aujourd'hui, dans la zone du Palatin, on peut observer de nombreux restes d'importants édifices construits pour la haute société romane, comme Domus Flavia. Le splendide palais du Domus Flavia fu construit en 80 après Christ par ordre de Domitiano, qui voulait utiliser l'édifice comme résidence officielle et publique. Actuellement, vous pouvez encore voir certaines parties de cette construction sont en use. Maison de Livia. Cette maison a l'aspect modeste, construite au 1er siècle avant Christ, est l'un des bâtiments les mieux conservés du Palatin. On peut encore y observer les restes des mosaïques et des fresques qui, dans les passés décorants, les plafonds et les murs de l'édifice. Maison d'Auguste, résidence d'Ottaviano Augusto. La maison construite sur deux niveaux conserve aujourd'hui une grande partie des extraordinaires couleurs et fresques originelles qui jadis décoraient les murs du palace. Musée Palatin. Dans ce petit musée sont exposées les découvertes des fouilles effectuées dans la zone du Palatin. Il contient des sculptures, des fresques, des mosaïques et des autres objets appartenant à l'époque de la plus grande splendeur de la colline.
Les forums impériaux sont un ensemble de grandes places, occupant une zone de plus de 500 mètres de long sur 300 mètres de large environ, située au nord-est immédiat du forum romain, au cœur de la Rome antique. Leur construction s'étale sur près de deux siècles. Jusqu'à la fin de la République, les activités politiques et judiciaires se concentrent sur les forums républicains. Mais avec l'avènement de l'Empire, les forums républicains cessent d'être le centre politique de Rome, qui se déplace vers les monts Palatines. Signe que les pouvoirs réels est maintenant détenu par l'empereur. Vers la fin de la République, le vieux forum apparaît comme exigu et il devient nécessaire de lui adjoindre de nouvelles espèces. Jules César, imité plus tard par Auguste, Vespasien, Domitien et enfin Trajan, lance la construction d'une vaste place fermée à proximité afin de mettre en œuvre son programme politique et ses plans d'urbanisme. Les forums de César fut inauguré en 46 avant Jésus-Christ et terminé par Auguste. Contrairement au vieux forum romain, ce projet possède une unité architecturale, une place avec des portiques sur les bords les plus longs et, au centre, vers les fonds, un temple dédié à Vénus Génitrix. Par rapport au forum de César, le forum d'Auguste est orienté perpendiculairement et le temple s'appuie sur un mur très haut. Aujourd'hui encore visible, qui sépare les monuments du quartier populaire des suburbs. Les portiques qui s'érigent sur les bords s'ouvrent de l'autre côté sur des amples cèdres destinés à accueillir les activités des tribunaux. Dans ce cas aussi, la construction du complet a des fins de propagande et son entier décoration célèbre le nouvel âge d'or qui commence avec l'Empire d'Auguste.
Sur le portique d'entrée, il y a une inscription. Emery Pelef Coster Sium Fecit, qui signifie Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la troisième fois, le fit construire. Le Panthéon est constitué par un pronao central qui mesure 33 mètres large pour 15,6 mètres de profondeur, surélevé par un podium de 1 mètre et accessible par un escalier de 5 marches. Il est formé par 16 colonnes corinthiennes de granit à chapiteaux de marbre. Les fûts mesurent 12 mètres d'auteur et 1,5 de diamètre. Le temple a deux frontons surhaussés, le principal sur le portique, l'autre contre le mur qui fait la transition entre le pronao et la rotonde. Sur l'architrave, il porte l'inscription d'Agrippa et le plus petit mentionne une restauration sous Septime Sévère. Le fronton était orné de décors en bronze fixés par des crampons. Dans le Panthéon, il y a la rotonde, un mur circulaire de 5,58 mètres de diamètre et de 7 mètres d'épaisseur. Le niveau inférieur est édifié par 7 exèdres semi-circulaires bordés par 2 colonnes corinthiennes camélées et 2 pilastres de marbre jaune. Le niveau supérieur est délimité par 2 coniches semi-circulaires altérées par 2 fausses fenêtres couvées, des places de plaques de marbre et de rectangles de porphyre. La voûte est composée par une sphère parfaite de 43 mètres de diamètre et d'une hauteur de 43 mètres, et marmée par 140 caissons en stuc disposés sur 5 rangées. Au centre de la colonne, à la culotte, il y a un moule de 8,7 mètres de diamètre, renforcé par un cerclage de bronze et l'unique source de lumière directe.
Via del Corso, avec une piste d'environ 1,5 km qui relie les places Piazza Venezia à Piazza del Popolo, Via del Corso est la rue la plus célèbre du centre historique de Rome. Déjà existante à l'époque romaine avec le nom de Via Lata, c'était une rue qui n'était pas habitée mais parsemée d'imposants tombes de personnages célèbres, surtout ceux de l'empereur Auguste et de Néron. Puisque nous est peu parvenu, au Moyen-Âge, la Via Lata a pris une apparence rurale complètement abandonnée qui a duré environ 700 ans. Ce n'est qu'au XVe siècle que l'ancienne route reprit de nouveau un rôle central dans l'urbanisme de la ville, aux yeux des pontifes qui la considéraient comme un moyen de communication important avec les portes fluviales de Ripetta. Par décret pontifical en 1467, il fut décidé de transférer toutes les activités et courses du carnaval très suivi par les Romaines et jusque-là lieu au Monte Testaccio, dérotement sur la Via Lata. Le toponyme a ensuite changé en Via del Corso avec une allusion évidente aux courses de carnaval qui avaient des chevaux comme participants et pas seulement. Les protagonistes involontaires des courses étaient avant tout des Juifs, forcé de courir parmi les injures. Il y avait aussi des jeunes hommes, des ânes et des buffles. Le spectacle carnavalesque des courses a été aboli en 1883 à cause d'un décès d'un jeune garçon qui, traversant la route, a été emporté par des chevaux sur les yeux de la reine Margherita. À partir de 1854, ont été ouverts et inaugurés les premières boutiques de mode, bijoutiers, bibliothèques, monuments, banques, organismes et institutions politiques. La rue est maintenant partagée en 4 districts et il y a de nombreux palais nobles et églises qui
donnant sur la rue et qui ont été reliés et les uns aux autres au cours des siècles. Un des rues donc parmi les plus fascinants de la capitale.